Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce vendredi 27 octobre 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Coalition de guerre anti-Hamas, l'étrange proposition d'Emmanuel Macron. Mes collègues vous présenteront ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. L'armée de terre de la République islamique a débuté des exercices militaires à grande échelle dans la province Isfahan. Les forces israéliennes, secondées par des avions de guerre, ont mené un bref raid terrestre dans le centre de Gaza et manifestation vendredi de solidarité avec la population de Gaza. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'armée de terre de la République islamique d'Iran a débuté ce vendredi 27 octobre des exercices militaires à grande échelle dans la province d'Ispahan, au centre du pays, dans le but de renforcer son pouvoir de dissuasion compte tenu du contexte régional actuel et des menaces potentielles. Les exercices, baptisés RTDAR 1402, dureront 2 jours dans la région de Nasrabad, dans la province d'Ispahan. Des régiments d'infanterie, des divisions blindées, des unités de missiles et d'artillerie, des divisions aéroportées, des escouades de drones, des unités de guerre électronique et des équipes de soutien participent à l'exercice, annoncé le général de brigade Karim Tchechak, porte-parole de l'exercice militaire. Toutes ces unités ont rejoint la zone de l'exercice depuis 7 provinces à travers le pays et ont parcouru en moyenne 1100 km. La première étape de l'exercice a consisté au transfert aéroporté et terrestre de 4 brigades de combat et d'autres unités vers la zone des exercices. Dans la deuxième étape, des opérations de surveillance et de reconnaissance seront assurées par des drones et des systèmes électroniques et de détection. Au cours des troisième et quatrième étapes, des exercices de défense côtière et des opérations aéroportées de nuit seront effectués. La phase finale consistera à mener des opérations de destruction des cibles de l'ennemi potentiel. S'adressant aux bellicistes sionistes et aux hommes d'État américains, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies « Nous ne sommes pas d'accord avec l'expansion de la guerre dans la région, mais si le génocide à Gaza se poursuit, vous ne serez pas épargnés par cet embrasement ». Lors de la réunion de l'Assemblée générale à New York, le chef de la diplomatie iranienne a rappelé que l'Iran a joué un rôle constructif dans la promotion de la paix, de la stabilité et dans la lutte contre le terrorisme et Daesh. Les États-Unis et un certain nombre de pays européens soutiennent le régime d'occupation d'Israël au mépris de la Charte des Nations unies et du droit international. Qu'est-ce qu'ont fait les résolutions du Conseil de sécurité pour le peuple palestinien ? Ils l'ont qualifié de terroriste et n'ont pas considéré son droit à l'autodéfense. Ces résolutions ont soutenu les actions criminelles du régime sioniste à Gaza. Le régime sioniste est en train de commettre un génocide à Gaza, a-t-il noté. Il a conseillé aux États-Unis d'être un garant de la paix au lieu d'envoyer des roquettes et des bombes à Gaza. Gaza a besoin d'une aide humanitaire d'urgence, a-t-il encore souligné. Les forces israéliennes, secondées par des avions de guerre, ont mené un bref raid terrestre dans le centre de Gaza dans le cadre d'une incursion terrestre qu'elles menaçaient de lancer dans l'enclave assiégée. L'armée israélienne a annoncé vendredi matin que son infanterie avait mené un raid ciblé dans le secteur central de la bande de Gaza, soutenu par des chasseurs et des drones. Selon l'armée israélienne, les chars et l'infanterie israélienne ont mené un raid similaire dans le nord de la bande de Gaza la nuit précédente. Cette déclaration intervient alors que des dizaines de milliers de soldats israéliens se sont massés le long de la barrière séparant les territoires occupés de Gaza en prévision d'une éventuelle incursion terrestre. On craint que cette incursion n'entraîne une augmentation exponentielle du nombre de Palestiniens tués dans les frappes aériennes israéliennes depuis le 7 octobre, qui dépasse désormais les 7 000. L'ambassadeur palestinien auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a affirmé jeudi, lors d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, que plus de 7 000 Palestiniens avaient été tués par les attaques israéliennes à Gaza, ajoutant que 70% de toutes les personnes tuées sont des femmes et des enfants. Quelque 3000 enfants ont été tués par Israël depuis les attaques lancées le 7 octobre, a-t-il dénoncé. L'ambassadeur palestinien a également indiqué que le régime sioniste a détruit plus de 40% de toutes les maisons à Gaza, laissant toute une population sans abri et déplacée. Cette indignation sélective scandaleuse doit cesser, et doit cesser maintenant, a soutenu l'ambassadeur palestinien. Les crimes incessants du régime sioniste à Gaza, les bombardements de zones résidentielles et la mort de plus de 7000 civils ont suscité la colère des nations de la région. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans différents pays de la région ce vendredi 27 octobre pour exprimer leur compassion avec la nation palestinienne opprimée et leur dégoût envers le régime sioniste. Des dizaines de personnes ont manifesté à Tul Karem, situé en Cisjordanie palestinienne, en soutien à la résistance de Gaza. Des milliers de Jordaniens ont défilé à Amman en soutien au peuple de Gaza. Ils ont exigé l'annulation des accords de compromis de la Jordanie avec le régime d'Israël. Les manifestants brandissaient le drapeau palestinien en condamnant la guerre lancée par le régime sioniste dans la bande de Gaza. Ils ont aussi exigé la fermeture de l'ambassade d'Israël à Oman. Des rassemblements de masse en soutien à la population de Gaza ont également eu lieu au poste frontière de Trebil entre l'Irak et la Jordanie. En Irak, aujourd'hui, une grande marche a eu lieu pour soutenir le peuple palestinien. Des rassemblements de soutien ont eu lieu également dans plusieurs villes égyptiennes. À Sana'a, au Yémen, une grande marche a eu lieu sur la place Sabine après la prière du vendredi. À Londres, un rassemblement public a eu lieu devant le bâtiment du ministère britannique des Affaires étrangères en soutien aux enfants de Gaza. New York a également été le théâtre de manifestations massives de soutien à la Palestine et de condamnation des crimes du régime sioniste à Gaza. Au milieu de l'indignation régionale face au soutien massif des États-Unis aux bombardements incessants du régime israélien contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, les États-Unis affirment que leurs forces et leurs alliés ont été attaqués à au moins 16 reprises à travers l'Irak et la Syrie voisines ce mois-ci. Depuis le 17 octobre, les forces américaines et de la coalition ont été attaquées au moins 12 fois en Irak et 4 fois en Syrie, a déclaré jeudi 26 octobre le général de brigade Pat Ryder, porte-parole du Pentagone. Ryder a déclaré que la dernière de ces attaques a eu lieu jeudi, dans la région du Kurdistan, nord de l'Irak, n'ayant causé aucune victime, imposant seulement quelques dégâts mineurs aux infrastructures, dit-il. Le Pentagone a également affirmé que 19 soldats américains avaient reçu un diagnostic de traumatisme crânien à la suite de ces frappes. Les attaques ont été menées avec un mélange de drones d'attaque à sens unique et de roquettes, a précisé Haïdar. Des sources militaires érythréennes ont rapporté jeudi 26 octobre à Al-Mayadin qu'une attaque avait été menée contre les forces israéliennes stationnées en Érythrée, en Afrique de l'Est. Les sources ont indiqué que l'attaque avait eu lieu contre une base israélienne dans l'archipel de Dahlak, visant le plus haut sommet du mont Ambassawir que les forces israéliennes utilisent comme poste d'observation en mer Rouge. Des sources ont déclaré à Al-Mayadin qu'un officier supérieur de l'armée israélienne avait été tué au cours de cette attaque. Aucun groupe n'a encore revendiqué la responsabilité de cette attaque et le régime sioniste n'a pas encore commenté ces informations. Israël est confronté à une réalité selon laquelle l'invasion terrestre de Gaza déclencherait une rafale de missiles, de roquettes et de drones susceptibles de surcharger ses systèmes de défense aérienne et d'endommager ses infrastructures stratégiques. Ansar Allah du Yémen n'est qu'une de nombreuses factions capables de faire face à l'occupation israélienne et a promis de le faire au milieu des atrocités israéliennes en cours à Gaza. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Coalition de guerre anti-Hamas, l'étrange proposition d'Emmanuel Macron. Les médias français sont montrés dubitatifs au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron en Israël. La presse accueille surtout avec scepticisme l'idée du président français, qualifiée de surprenante, d'étrange, quand ce n'est pas de raisonnable. Proposition qui, semble-t-il, prie tout le monde de court. Former une coalition internationale de guerre contre le Hamas, semblable à celle mise en place en Irak et en Syrie contre Daesh. En effet, soucieux de surprendre dans une diplomatie spectacle, le chef de l'État français s'est lancé dans une improvision trop personnelle, un coup d'éclat à forte charge médiatique. Alors que la France affirme le droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit international, sans mentionner les crimes de guerre commis par l'entité israélienne à Gaza, Macron a formulé une proposition, celle de bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre le Hamas. Selon son entourage, il s'agirait de créer une nouvelle coalition ou d'étendre le combat contre le Hamas, celle qui existe depuis 2014, pour lutter le groupe Daesh en Syrie et en Irak, à laquelle participent Paris et des pays occidentaux. L'idée de mobiliser la prétendue coalition anti-Daesh contre la résistance palestinienne, tout en appelant à éviter tout embrasement, a en tout cas surpris l'opinion publique dans la région, mais aussi à travers le monde, tout comme dans l'Hexagone. À Paris, le pesant de gauche radical Jean-Luc Mélenchon a critiqué un possible retour à la théorie de la guerre contre le terrorisme de l'ex-président américain George W. Bush. À droite aussi, la proposition du président Macron a fait polémique. Si le président français a fustigé les pertes israéliennes dans les attaques du Hamas, tout en témoignant du soutien inconditionnel de la France à Israël, il a soigneusement évité de condamner les bombardements israéliens sur les populations palestiniennes qui ont causé des pertes civiles beaucoup plus importantes. Cette politique de deux poids, deux mesures n'a pas échappé à Amnesty France, qui rappelle que le président français, qui a condamné au nom de la France l'opération du Hamas contre Israël, devrait aussi condamner les attaques indiscriminées de l'armée israélienne contre la population civile à Gaza et les crimes de guerre commis par le régime de Tel Aviv. Au moment où le monde entier continue d'exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien, écrit son indignation et sa colère contre Israël et ses complices occidentaux, l'inapplicable proposition de coalition anti-Hamas de Macron met les points sur les i pour ce qui est de l'isolement de l'Occident.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous alors que les bombardements s'intensifient à Gaza. Emmanuel Macron, le président français, a exprimé son soutien inconditionnel aux crimes de guerre commis par le régime sioniste dans la bande de Gaza. Alors que les manifestations anti-sionistes étaient interdite jusqu'ici à Paris, entre autres, des centaines de milliers de manifestants se sont rendus dans les rues pour exprimer leur colère quant à la position de la France vis-à-vis d'Israël en annonçant que la France est complice des crimes criminels donc commis dans la bande de Gaza et bien sûr soutenu la population de la bande de Gaza. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Reste avec nous, je vous prie.
Depuis l'opération surprise et spectaculaire du Hamas contre Israël, suivie en représailles par des bombardements génocidaires de la bande de Gaza opérés par l'armée israélienne, faisant des milliers de victimes palestiniennes, le monde est en pleine ébullition. En France, le gouvernement Macron s'est posé en soutien inconditionnel du régime israélien. Ainsi, l'Élysée, le Quai d'Orsay, fermant les yeux sur le projet funeste d'Israël, fonde de la patrie des droits de l'homme un complice des crimes de guerre commis contre la population palestinienne. Plutôt que de réclamer un cessez-le-feu immédiat, Emmanuel Macron, en rupture totale avec la diplomatie traditionnelle de son pays sur le dossier israélo-palestinien, se positionne en va-t-en-guerre aux côtés de l'extrême droite belliciste au pouvoir à Tel Aviv. Dans ce cadre, le voyage du président Macron en Israël comporte le risque d'ancrer l'image d'une France soutien inconditionnel d'Israël à un moment où les frappes israéliennes sur Gaza s'intensifient. Cette position du gouvernement, de la classe dirigeante et des médias français qui soutiennent ouvertement et inconditionnellement le régime israélien ne peut être qualifiée autrement sinon de complicité, de terrorisme d'État, de crime de guerre et de crime de génocide. Les manifestants à Paris qualifient Macron de complice des crimes de guerre israéliens. En France, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur la place de la République à Paris dimanche 22 octobre pour exprimer leur soutien aux habitants de la bande de Gaza où l'armée israélienne a intensifié ses bombardements de semaine après le lancement de l'opération Tempête d'Al-Aqsa. Réunis dimanche après-midi, les organisateurs ont vivement fait connaître leur colère devant le discours du président Emmanuel Macron. Macron donne un permis de tuer à Israël, a dénoncé Bertrand Heilbronn, le président de l'association France-Palestine Solidarité, sous les applaudissements des manifestants qui sont mis à escander Israël assassin, Macron complice. Il s'agissait de la première manifestation parisienne en faveur de Gaza, non interdite par la préfecture de police. Le Conseil d'État s'est opposé le 19 octobre à l'interdiction systématique exigée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le tribunal administratif de Paris avait annoncé dans la foulée lever l'interdiction préfectorale d'une manifestation pro-palestinienne. Alors que des dizaines de milliers de personnes sont rassemblées à travers le monde en solidarité avec les Palestiniens, certains pays européens, dont la France, continuaient d'interdire et de réprimer les manifestations pro-palestiniennes. Paris a décidé de réprimer les groupes pro-palestiniens depuis le début des agressions israéliennes contre la bande de Gaza, prétendant que les restrictions visent à mettre fin aux troubles publics et à prévenir l'antisémitisme. En effet, depuis le 7 octobre, toute expression de solidarité avec le peuple palestinien est criminalisée par le gouvernement Macron qui, par ailleurs, avait interdit toute manifestation pro-palestinienne en France. Puis, il tente d'assimiler tout soutien à la cause palestinienne à un soutien au terrorisme. Quiconque exprime sa solidarité avec la Palestine est accusé d'apologie du terrorisme et s'expose à des poursuites judiciaires. Rappelez que depuis le 12 octobre, la police française a infligé 827 amendes et a arrêté 43 personnes se présentant comme pro-palestiniennes. Des centaines de militaires français partent combattre contre Gaza aux côtés d'Israël. La question de la complicité de la France dans les exactions de l'armée israélienne est à nouveau à l'ordre du jour, alors que le nombre de Français quitte l'Hexagone pour participer au combat contre les groupes palestiniens à Gaza. Certains médias ont récemment levé un coin de voile sur le transfert de centaines de militaires français disposant ainsi la nationalité israélienne vers les territoires occupés pour participer à la guerre contre Gaza. Sur la question palestinienne, la France a, à l'instar de la plupart des pays européens, abaissé les bras il y a de nombreuses années, une position vivement reprochée aujourd'hui par le monde musulman. Pour s'être rangé consciemment derrière le régime israélien, pour avoir cautionné l'intervention militaire de l'armée israélienne à Gaza et soutenu ses bombardements meurtriers, le gouvernement Macron, la classe dirigeante et les élites culturelles et médiatiques françaises se sont rendus coupables de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Eh bien, voilà pour le reportage. La France, patrie des droits de l'homme ou bien complice des crimes commis par le régime sioniste à l'égard des Palestiniens sans défense. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par Jean-Maxime Corneille, journaliste, juriste et analyste français en intelligence économique et questions stratégiques. Monsieur Corneille, bonjour.
Bonjour, bonjour Théa, merci pour votre invitation.
Tout le plaisir est pour nous. Un grand bonjour à Bernard Cornu, activiste anti-guerre et anti-embargo, spécialiste français du Moyen-Orient. Monsieur Cornu, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir. Un débat qui s'annonce prometteur. Ma première question va s'adresser à Monsieur Cornu, qui est avec nous depuis la France. Monsieur Cornu, Emmanuel Macron qui exprime son soutien inconditionnel à Israël, alors voir que des milliers de morts chez les Palestiniens. Est-ce que ce n'est pas plutôt un complice avec Israël dans ses crimes ou bien c'est autre chose, M. Cornu?
C'est complexe et c'est difficile à assumer pour le président français qui n'a pas une majorité absolue. Donc il doit tenir compte aussi de certaines parties de l'opinion française. Et donc il avait signifié trois objectifs à sa mission. Faire libérer tous les otages, non seulement les otages français, mais tous les otages. Il a même précisé un moment civil et militaire, ce qui peut être critiqué pour la partie militaire, puisque nous sommes en guerre, enfin les Palestiniens sont en guerre avec un État occupant. Deuxième objectif, c'était de faciliter une trêve humanitaire, mais sans dire clairement un cessez-le-feu. Et troisième objectif, c'était, et moi, pour moi c'est le plus important, c'est le plus significatif, disons, c'est la relance d'un processus décisif, la relance décisive d'un processus politique avec les Palestiniens. Et il a même dit que la sécurité de l'État israélien ne pouvait être assurée que par une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens. Et en ce sens-là, il se met un peu derrière, à l'abri du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui a eu des propos très clairs pour replacer l'offensive barbare, disons, et l'offensive très dure du 7 octobre dans le cadre de la vieille occupation par l'État israélien des territoires palestiniens, dans le cadre des emprisonnements, des démolitions de maisons, des assassinats extrajudiciaires. Donc, il a recasé, disons, M. Guterres a recasé ceci dans ce cadre général qu'on a eu tendance un peu à oublier au début. Et M. Macron va se mettre, à mon avis, petit à petit dans ce cadre-là.
Absolument. M. Corneille, alors nous avons entendu les propos de M. Cornu. Alors qu'un président français, un président d'un pays occidental, au lieu d'encourager des pourparlers de paix, il encourage plutôt et il donne la carte verte aux Israéliens de commettre plus d'actes barbares. Que pensez-vous, je vous prie?
Bien, c'est exactement ça le problème. C'est une position qui, diplomatiquement, discrédite la France en tant qu'élément apaisant. La France prend clairement parti pour l'un des deux belligérants d'une façon qui discrédite la diplomatie française à l'égard de tout le monde arabo-musulman, mais également du monde entier, quand la France se prétend normalement championne des droits de l'homme et de la mesure, théoriquement. Ça, c'est ce que la France était naturellement. Mais en réalité, ce qu'il nous faut comprendre, ce que j'ai déjà dit sur votre antenne, mais qui est tellement peu connu qu'il faut le répéter, c'est la lente inversion, la lente subversion et le retournement de la politique, de la diplomatie française depuis, alors spécialement depuis 2003 avec le non à la guerre d'Irak, mais en réalité depuis la naissance d'Israël et depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Les véritables initiés des forces de sécurité françaises en avaient déjà parlé à l'époque, mais les Juifs eux-mêmes l'ont documenté. J'ai déjà évoqué sur votre antenne que dès avant la crise de Suez, dès 1954, l'ambassadeur français Pierre Gilbert en Israël disait clairement que c'était la communauté juive française qui, par son contrôle monopolistique sur les médias et sur le cinéma, avait créé à la fois un réveil entre guillemets du judaïsme français et un courant de sympathie pro-israélien. On en voit l'aboutissement ici, et surtout derrière la personne de Macron, c'était déjà le cas avec Sarkozy, mais surtout derrière Macron, il est très envisageable que Macron soit de fait le pantin d'une certaine mafia israélienne, faisant fi des luttes d'influence interne au sein du judaïsme, parce qu'au sein du judaïsme, nous n'avons pas que des juifs qui sont en faveur de la version la plus Netanyahou de la politique israélienne aujourd'hui, d'une politique d'ailleurs de Netanyahou qui risque en plus de précipiter la fin potentielle d'Israël, parce que avec cette logique de Gaza, je pense qu'il y avait réellement une logique de faire une union sacrée derrière Netanyahou, alors que Netanyahou était très populaire, mais que la France soutienne cela aux yeux du monde, la France se place du côté de la version la plus jusqu'au boutiste de la politique israélienne, jusqu'à se faire détester et donc que la France se fasse détester avec. C'est vraiment un vrai problème qui se déploie sous nos yeux.
Très, très intéressant ce que vous dites, M. Corneille. Est-ce que M. Cornu partage votre avis? Je vois que vous portez le drapeau des Palestiniens sur l'épaule. M. Cornu, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet, je vous prie?
Oui, je voudrais nuancer un peu cela parce que je l'ai déjà dit, la position française est complexe. Il y a des parties tout à fait condamnables que la France n'est pas encore appelée clairement à cesser le feu. C'est tout à fait condamnable et ça la rend effectivement complice de la poursuite de ces morts civiles et ces destructions très, très dures dans la bande de Gaza. Mais il y a une autre partie qui a été dite déjà par le président, mais les médias en ont peu parlé encore. C'est pour ça que j'insiste, et qu'il a dit aussi que la sécurité de l'État israélien ne pouvait assurer que par une relance décisive, c'est-à-dire allant jusqu'au bout, d'un processus politique avec les Palestiniens. Et il a clairement dit que la solution était celle des deux États, et donc cela suppose une négociation forte. Et je pense que les Nations Unies, au moins le secrétaire général, se pose dans ce dans cette même perspective, la Russie aussi et la Chine aussi, l'Angleterre peut être sans doute hésitante et il faudra que l'Europe fasse beaucoup d'efforts pour convaincre les États-Unis de ne pas mettre leur veto à une résolution qui conclurait ou qui pousserait à ce processus de négociation politique. Il faut dire d'ailleurs que le président Macron a aussi évoqué l'idée d'une coalition internationale semblable à celle qui a combattu Daesh. Cette résolution, c'est la résolution, ceci a été créé par une résolution numéro 2170 du 15 août 2014, donc il y a déjà 7 ans, pour combattre le groupe Jabhat al-Nusra et le groupe Daesh, combattre l'apologie du terrorisme. Bon, elle avait été signée aussi acceptée par la Russie quand M. Poutine était président en 2014, mais elle a été appliquée de façon, à mon avis, très violente et en dehors de, disons, l'action normale de l'Organisation des Nations Unies, avec des bombardements assez massifs sur la ville de Raqqa, sur la ville de Mossoul, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'images, il y a eu énormément de dégâts civils. Donc, je pense que, enfin, il est sûr que la Russie a protesté contre ce modalité d'application qui était, une fois de plus, contre des pays arabes, concernant des pays arabes, une résolution sous chapitre 7, donc permettant, selon la Charte des Nations Unies, le recours à tous les moyens, donc y compris la force, pour restaurer la paix. En l'occurrence, c'était une résolution pour combattre les djihadistes de Daesh et de Al-Nusra, combattre le terrorisme sous toutes les formes, le financement du terrorisme. Donc l'action du Hamas, qui est une des organisations de résistance palestinienne, n'est pas du tout de même nature. Et donc là, il y a un abus de langage, il y a une erreur qui a d'ailleurs été condamnée par beaucoup de côtés sur cette perspective. Mais encore une fois, j'insiste, Le troisième élément prioritaire, c'est la relance du processus politique de négociation pour aboutir à un État palestinien reconnu dans les frontières de 1967, y compris avec Jérusalem-Est comme capitale, comme ça a été accepté il y a plusieurs années par l'OLP et les pays arabes, comme même le Hamas l'a accepté en disant qu'il ferait une trêve s'il y avait un État palestinien établi sur une partie libérée de la Palestine. Donc en fait, ceci est une solution possible et sur laquelle il faut aider les Nations Unies, la France et d'autres pays européens, favorables souvent à la Palestine, comme le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, à avancer dans cette perspective. Et je pense que même s'il y a eu beaucoup de maladresse dans les déclarations de M. Macron, même s'il n'y a pas encore un appel clair au cessez-le-feu, sans doute à cause de faible soutien de la politique française qui est très divisée, on l'a vu à l'Assemblée lors des débats, il faut aller dans ce sens-là, et c'est là l'essentiel pour avoir une sortie positive de cette effroyable crise qui a produit déjà 7 ou 8 000 morts en tout dans la région, énormément de destruction. Donc il faut trouver une sortie positive et il faut effectivement, comme l'a demandé maintenant plusieurs pays arabes de la région, un cessez-le-feu. Et il faut une trêve humanitaire comme l'a demandé aussi les Nations Unies et il faut un cessez-le-feu comme devrait le demander la France le plus tôt possible.
Absolument. Monsieur Corneille, évidemment, si la bonne volonté existait chez la France ou le gouvernement israélien, des pourparlers de paix seraient possibles, une solution politique serait possible, comme a dit M. Cornu. Mais malheureusement, dans l'action, on voit tout à fait le contraire, que ce soit chez la France ou bien les Israéliens qui commettent chaque jour, par exemple aujourd'hui, 140 morts chez la population dans la bande de Gaza. Donc, la réalité, c'est autre chose. Que pensez-vous, Jopri? Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Cornu?
Je suis, oui, évidemment. Alors, d'accord avec M. Cornu, c'est absolument, il a eu un propos très ciselé, c'est très, très clair. Le deux poids deux mesures, et c'est surtout la façon, en fait, ce qui m'intéresse ici par rapport à l'orientation de la politique de la France, c'est la façon dont elle a été israélisée depuis 20 ans. C'est-à-dire que lorsque l'on voit Netanyahou qui, hier, nous disait que le Hamas, c'est Daesh aux portes de Paris, de fait, il a raison. Mais en réalité, et c'est la raison pour laquelle il y a tant de luttes d'influence interne en France et si peu d'union politique au sujet du soutien du Hamas, c'est que nous avons sous-estimé, et le monde arabo-musulman, y compris l'Iran, sous-estime la façon dont en France ont été créées les conditions pour un soutien davantage en faveur d'Israël qu'en faveur du Hamas, parce que le sujet, c'est que des agents d'influence israéliens réussissent en France à faire assimiler la résistance, l'intégralité de la résistance palestinienne au djihadisme international. C'est totalement faux. C'est contraire à l'expertise française. Rappelez-vous que la France a été le premier État à dénoncer le djihadisme artificiel dès 1930 contre les Britanniques qui formaient à l'époque des combattants terroristes, pseudo-musulmans qu'on n'appelait pas encore djihadistes, dans un contexte de futur changement de régime, etc. Mais nous avons un oubli de cette expertise-là parce que depuis des années, nous avons eu des agents d'influence pro-israéliens qui ont facilité la pénétration djihadiste en France, tant et si bien qu'on l'avait vu à l'occasion des attentats Charlie de 2015. Nous avions Netanyahou qui accourait pour dire que, oh là là, vous voyez, Israël a les mêmes problèmes que la France avec le terrorisme musulman, vous voyez, les musulmans sont tous des terroristes. Ça, c'est le résultat d'une opération psychologique qui est sous-estimée pour orienter les positions de la France aujourd'hui en faveur
d'Israël.
Monsieur
Corneille, est-ce que cette politique a été réussie?
Laquelle exactement?
Laquelle, celle des Israéliens qui ont donc pénétré, enfin par force ou par
absolument.
Les médias?
Oui. Absolument. Cette opération psychologique a été une totale réussite, puisqu'on voyait, il y a 10 ans, à peu près en 2013, il y avait une menace d'alliance islamo-chrétienne, notamment autour de la question palestinienne, ou en tout cas de la mobilisation saine de l'opinion publique française en faveur de la cause palestinienne, car c'était un point de tension stratégique et que l'intérêt de la France était d'être une puissance œuvrant pour la concorde des nations, ce que De Gaulle appelait la concorde des nations. Et à cette occasion-là, nous avions vu le banc et l'arrière-banc des agents sionistes, plus ou moins pro-israéliens, notamment Meir Habib, qui est une caricature d'agent d'influence de Netanyahou en France, pour propulser le narratif selon lequel quiconque critiquait la politique israélienne de Netanyahou était en fait un gros antisémite vilain méchant. Et ça, c'est ce à quoi nous aboutissons aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qui est musulman aujourd'hui égale terroriste, tout ce qui est palestinien aujourd'hui égale djihadiste, il y a une assimilation fallacieuse, c'est un abus des termes, une torsion des termes, mais c'est l'aboutissement d'une opération psychologique dont les affaires des caricatures et Charlie Hebdo faisaient notamment partie. Mais le résultat est une réussite de cette intention de subversion idéologique israélienne ayant consisté à assimiler donc tout ce qui est musulman, tout ce qui est islam ou tout ce qui est palestinien, à du djihadisme, au méchant Hamas qui est la succursale de Daesh ou au méchant Daesh, alors même que l'on sait que le djihadisme a historiquement été créé artificiellement par les anglo-américano-israéliens. Voilà la réussite que ça a été.
Absolument.
Et c'est l'explication des manquements français actuels.
C'est tout à fait juste. Monsieur Cornu, est-ce que vous voulez réagir, je vous prie?
Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que l'influence, disons, dans les médias et même dans la politique française, est très ancienne, l'influence des lobbies sionistes pro-israéliens. Moi-même, je sais, et ceci est très peu connu, personne n'en a parlé, qu'il y a une influence très profonde de ces milieux pro-israéliens au sein du ministère de l'Intérieur français, et ceci depuis la fin de 1954-1955, au moment du début de l'insurrection algérienne contre la France, qui avait colonisé l'Algérie très brutalement, ceci s'était créé au moment où le président Mitterrand, l'ancien président était ministre de l'Intérieur, et il avait recruté beaucoup de personnel de renseignement en Algérie et en France, mais le ministère de l'Intérieur, par son informatique de l'époque, était incapable de traiter l'information à cause du fait que les noms arabes étaient mal transcrits. Le principe de l'arabe, des langues sémitiques, et c'est l'importance de trois lettres, d'habitude des consonnes. Et en France, on a l'ordre alphabétique, et à l'époque, tout le monde respectait l'orthographe très, très bien. Mais le système informatique du ministère de l'Intérieur en 1957 était incapable de traiter de façon rationnelle toutes les mauvaises transcriptions, mauvaises translittérations de l'arabe. Et donc, c'est le Mossad qui avait été contacté et qui avait proposé son système informatique qu'il avait développé, avec d'ailleurs un financement américain au moment de la guerre de Corée. Et à l'époque, moi je tiens ceci depuis 1969 d'un ingénieur qui travaillait avec le ministère de l'Intérieur français, avec le service informatique pour implanter des logiciels. Et lui-même avait tenu cette histoire du directeur de l'informatique du ministère de l'Intérieur à l'époque de Mitterrand en 1955. Ceci est très grave et j'ai vu d'autres, je pourrais citer d'autres infiltrations dans les ministères. Monsieur Pérez avait un bureau dans l'administration française pour pouvoir développer la coopération. Il y avait des gens qui volaient des technologies françaises, soit spatiales, soit technologiques, militaires, pour les revendre, les reprendre à leur compte et les revendre ailleurs dans le monde.
Toute cette
infiltration de Français qui était assez naïf, moi je l'ai fréquenté, ayant fait Polytechnique, j'ai bien vu aussi comment de jeunes personnalités brillantes, pro-sioniste, pro-israélienne, infiltrer l'administration et la technologie
absolument
française pour pouvoir la transférer en Israël.
Oui. Bernard Cornu, activiste anti-guerre et anti-embargo, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à Jean-Maxime Corneille qui nous a accompagnés dans le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur l'hypocrisie occidentale, une hypocrisie qui défend la profanation du noble Coran et interdit en même temps les manifestations pro-palestiniennes. Depuis près de trois semaines, les valeurs que la société occidentale prétend défendre sont mises à l'épreuve. Depuis le lancement de l'opération de la tempête d'Al-Aqsa, baptisée également « Déluge d'Al-Aqsa », lancée par le Hamas le 7 octobre, le monde a vu les soi-disant valeurs de l'Europe et de l'Amérique du Nord mises à l'épreuve. Les pays mêmes qui défendent fiévreusement des idées abstraites telles que la liberté d'expression et la liberté de la presse en maintenant, sous la pression du lobby sioniste ainsi que des faucons de la politique étrangère américaine, réduisent leur soutien à ces idées. On dit que la Palestine est le test décisif pour déterminer si une personne, une institution ou un État se range du côté de la justice. Si tel est le cas, examinons alors l'orientation des États occidentaux envers la Palestine. Prenons le cas de l'Allemagne qui a pris des mesures hystériques ces dernières semaines pour interdire complètement les manifestations pro-palestiniennes, les qualifiant rassemblements antisémites. Ce pays d'Europe occidentale qui a inscrit le droit de réunion dans sa constitution depuis le milieu du XXe siècle a violemment réprimé les militants pro-palestiniens et a même interdit le groupe pro-palestinien Samidoun qui mène un travail de défense des prisonniers palestiniens. Prenons le cas de la France, connue pour sa politique discriminatoire à l'égard des musulmans. Le ministre français de l'Intérieur Gérard Darmanin a déclaré l'interdiction pure et simple de toutes les manifestations liées à la Palestine. Les manifestations pro-palestiniennes doivent être interdites car elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, a prétendu la semaine dernière le ministre français mettant en garde contre des arrestations. En outre, ceux qui se montrent solidaires de la cause palestinienne en portant un keffieh par exemple seraient également arrêtés, interrogés et condamnés à une amende. Encore une fois, ils attribuent tout cela à l'antisémitisme. Il s'agit évidemment du même pays qui a imposé l'interdiction du port du voile islamique hijab et qui se moque régulièrement des personnages et des valeurs sacrées de l'islam dans les journaux et les caricatures. Prenons maintenant le cas du Royaume-Uni où le gouvernement de Rishi Sunak a ouvertement exprimé son soutien à la campagne génocidaire du régime israélien dans la bande de Gaza assiégée. Même si elle n'est pas aussi sévère à l'égard des manifestants que la France et l'Allemagne, la ministre britannique de l'Intérieur Suella Braverman a insisté sur le fait qu'agiter le drapeau palestinien pourrait équivaloir à une incitation au racisme ou à la violence. Dans une lettre adressée à la police, elle a déclaré que des comportements qui sont légitimes dans certaines circonstances, par exemple agiter un drapeau palestinien, peuvent ne pas être légitimes, par exemple lorsqu'ils visent à glorifier des actes de terrorisme. Dans le même temps, le Premier ministre Sunak a exigé que tous les bâtiments de l'État arborent le drapeau du régime israélien. Et l'on voit là parfaitement l'essence de la situation hypocrite qui règne en Occident. Il existe une contradiction directe entre les soi-disant valeurs primaires de l'Occident, à savoir la liberté d'expression. La liberté d'expression des médias et de réunion n'est autorisée que tant qu'elle n'interfère pas avec les directives de l'État unifié et des lobbyistes visant à soutenir, par exemple, le génocide israélien des Palestiniens. Rappelons qu'il y a un peu moins de 6 mois, des pays européens comme les Pays-Bas, la Suède et le Danemark autorisaient la profanation du noble Coran. Malgré la condamnation unifiée du monde musulman et les tentatives pour y mettre un terme en le qualifiant à juste titre de raciste et d'islamophobe, ces pays ont laissé la profanation se faire à maintes reprises. Lorsque les citoyens de ces pays intervenaient pour mettre un terme à ce phénomène, ce sont eux qui étaient arrêtés et non les profanateurs eux-mêmes. Le noble Coran est le texte sacré pour tous les musulmans. Rien ne le surpasse. le brûler, revient bien entendu à inciter à la haine et à la violence envers les musulmans en particulier, dans les régions où les crimes de haine islamophobes sont en hausse. Cependant, aucun appel officiel n'a été lancé pour le condamner. Les hommes politiques européens ont fermé les yeux et haussé les épaules, ne condamnant pratiquement pas la situation et invoquant plutôt la liberté d'expression et la liberté de manifester. Il a fallu un effort unifié de la part de certains pays à majorité musulmane pour que cette profanation soit relayée par les principaux médias. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a dû adopter une résolution pour le condamner en juillet. L'hypocrisie est mise à nu, insulter 2 milliards de musulmans est protégé par les valeurs des États occidentaux, alors qu'il suffit d'insulter le projet politique colonial de l'Occident par le seul mot « Palestine » pour que certains responsables vous traitent d'antisémites. C'est une répression flagrante et ce n'est même pas catégoriquement exact. Par définition, le sionisme, l'idéologie politique du projet colonial israélien, n'est pas le judaïsme. Si leurs valeurs sont cohérentes, la société occidentale ne peut pas gagner sur deux tableaux. Si les États américains et européens peuvent réprimer les fausses équivalences d'antisémitisme, ils doivent alors poursuivre en justice ceux qui profanent réellement le noble Coran au lieu de les protéger. Mais même ici, l'argument est placé dans une case incorrecte parce que la cause palestinienne elle-même est une cause humaine. Plus d'un million de Gazaouis sont confrontés au nettoyage ethnique et au génocide. Exprimer son soutien aux Palestiniens ne peut être condamné car il ne s'agit pas d'une question religieuse, c'est une question sociale et politique. Ainsi, même si la profanation du noble Coran constitue véritablement un crime de haine dans la mesure où elle vise une religion entière, un appel à la solidarité avec la Palestine ne peut en être catégoriquement un car il appelle à la justice contre une entité politique. Et c'est là que réside la vérité dans tout cela. Les mécanismes de l'Occident ne servent donc qu'à faire respecter ses propres objectifs politiques au détriment de l'humanité. Malgré les menaces de répression et de répression étatique, la cause palestinienne est restée forte. En France, en Allemagne et au Royaume-Uni, les manifestations et les rassemblements se poursuivent, même s'ils sont étroitement surveillés par l'État et surveillés de près. Chaque jour qui passe, l'appel à la justice pour la Palestine grandit, même en Occident, à mesure que le récit sioniste s'effondre. La vérité ne peut pas être rendue illégale, la barbarie, si. L'avenir immédiat verra davantage de répression de la solidarité palestinienne. Dans le même temps, l'islamophobie endémique va augmenter, comme c'est toujours le cas lorsque les médias et les responsables occidentaux commencent à condamner les Palestiniens pour leur droit légal à résister. Cependant, ce sont des millions de personnes marchant dans les rues pour une Palestine libre qui, en fin de compte, écriront l'histoire. Les contradictions hypocrites de l'Occident et de ses appareils provoquent crise après crise et entraîneront sans aucun doute sa perte.
We'll be right back. Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.